Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon moment littéraire. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une pièce qui reste trop souvent méconnue du grand public alors qu'elle est pourtant assez intéressante. On ne présente plus la Bérénice de Racine, qui est probablement l'une des plus belles tragédies en vers que la langue française a pu offrir. Au point que l'on néglige trop l'autre Bérénice, celle qui a été éclipsée par l'histoire et surtout par la gloire de la pièce que l'on connaît tous sous le nom de Bérénice. Je fais ici référence au texte de Corneille, Tite et Bérénice, publié en 1670, c'est-à-dire en fait la même année que la pièce de Racine, mais qui a en fait été jouée la même semaine avec 7 ou 6 jours d'intervalle. Il faut tout de même rappeler un point de contexte qui est qu'au XVIIe siècle, la notion de plagiat est quelque peu anachronique. En effet, les dramaturges et poètes ne sont pas soumis au graal moderne de l'originalité. Ainsi, ces derniers pouvaient librement puiser dans un véritable vivier antique les mythes connus de tous. Et pour cause, en fait, le public connaissait déjà souvent l'histoire avant d'aller voir une pièce. L'intérêt pour ce public dix-septièmiste, c'était donc pas d'être choqué ou d'être surpris par le dénouement de l'intrigue, mais bien de voir comment, en fait, la pièce allait se dérouler, de voir un peu un œil nouveau sur une histoire déjà connue. Or, Bérénice est un sujet tout trouvé. En effet, l'inspiration de la pièce tient tout juste sur un vers de Suétone qui ne manque pas, par sa brièveté, de contenir à lui seul toute la charge tragique de l'histoire entre les deux amants. Titus renvoya Bérénice chez elle, malgré lui, malgré elle. La cause est bien connue. Il est empereur de Rome et elle est reine de Judée. L'empire de Rome interdit le mariage selon la loi puisqu'une reine étrangère ne peut pas épouser un empereur. La genèse de nos deux œuvres tient dans cette simple phrase et c'est ça qui explique la différence fondamentale dans le déroulé de leur intrigue puisqu'on a en fait très très peu d'éléments pour savoir comment la mettre en scène. La rivalité entre Corneille et Racine, qui sont en fait les deux pendants du genre tragique français au XVIIe siècle, fascine depuis longtemps la scène littéraire, et la question de Bérénice est donc un sujet tout trouvé. Se multiplient progressivement théories, hypothèses et spéculations sur la genèse de l'œuvre. La plus connue attribue à Henriette d'Angleterre un rôle majeur. Elle aurait en effet sommé aux deux dramaturges, sans les prévenir, demandé tous les deux la même pièce, proposant ainsi un beau jeu littéraire. En réalité, il est davantage probable que le Corneille vieillissant de l'époque ait tenté de s'imposer sur un terrain qui semblait a priori ne pas lui être favorable. Rappelons qu'au cours des dernières années précédant les Bérénices de 1670, Racine était en vogue et ne cessait de voir sa gloire monter sous l'œil inquiet de Corneille. Racine, lui, avait la faveur de la cour et bien que la gloire de Corneille était encore, en 1670, incontestablement la plus grande des deux, au point qu'à l'époque jamais ne sont comparés les deux, Racine est le plus à la mode des deux à ce moment-là. Plus largement, il est celui qui a la faveur du public quand il s'agit de faire une élégie dans le genre tragique, noble et majestueux qui plaît à leur temps. Corneille, lui, plus début de siècle, s'y est davantage à une esthétique baroque, grandiose, noble certes, mais bien héroïque et flamboyante. Et bien que le public apprécie toujours un underdog, il est indéniable que Racine l'emporte dans ce match à domicile. C'est vrai pour la postérité qui retient sa Bérénice et oublie celle de Corneille, mais c'est déjà vrai aussi à l'époque. On ne joue Tite et Bérénice que trois fois, tandis que la pièce de Racine, elle, connaît dès ses premières représentations un succès retentissant et fait pleurer tout Paris. Et pourtant, Tite et Bérénice possède de nombreuses qualités d'un point de vue dramatique et même poétique. Nous profitons ainsi de cette chronique pour en discuter afin de redonner sa place méritée à une œuvre qui ne connaîtra jamais le succès alors qu'elle reste dans l'ombre de sa grande sœur, la fameuse Bérénice. L'histoire chez Corneille reste sensiblement la même d'un point de vue de la situation. Titus, qui s'appelle désormais Tite, a été l'amant de Bérénice qui l'a emmené à Rome dans son palais. Il l'aime, elle l'aime également, mais devenu empereur, il doit l'exiler car la loi de Rome ne peut accepter une reine étrangère comme impératrice. Antiochus, central à l'action de la pièce de Racine, est absent. Mais il est remplacé par deux personnages dont le potentiel dramatique est tout aussi prometteur. Si, alors qu'il doit répudier Bérénice, Tite est sommé d'épouser Domitie, fille d'un consul romain, car sa popularité peut encore soulever la foule et ainsi apporter la gloire à l'Empire. Or, afin de pimenter les choses, Corneille ajoute un autre personnage. En effet, Domitie est aimée de Domitien, frère de Tite, dont elle est elle-même amoureuse. En bon personnage cornélien, elle est déchirée entre son amour et son ambition car elle veut à tout prix devenir impératrice. Domitie est peut-être l'un des personnages les plus intéressants et les mieux construits de l'œuvre de Corneille. En effet, elle incarne le type de la reine ambitieuse et jalouse, tout en demeurant une des personnalités les plus touchantes de la pièce. Cette intrigante rappelle par certains traits et par la tournure noble de certains vers l'infante du Cid si cette dernière avait volonté d'assouvir ses désirs. En contrepartie, Domitien, qui voit son amante tomber dans les bras de son frère, intrigue également. Il comprend que la solution de son problème repose sur le retour de Bérénice, qui pourra en fait faire vaciller Tite. Dans un élan presque vaudevillesque, les alliances se forment et les couples s'échangent. La pièce se joue comme une véritable partie d'échecs où tous les coups sont permis. Domitien et Bérénice se font la cour et jouent à rendre jaloux leurs amants respectifs. Alors Tite hésite et Domitien s'exaspère. Elle se lance à son tour dans des tirades brûlantes où elle accuse à tour de rôle l'empereur et son frère de ne pas l'aimer assez. Bérénice, elle, joue de son amour pour faire pression sur Tite. Il n'épousera pas Domitie. Le génie cornélien lui permet de montrer comment chacun de ses participants élimine un autre, les menant tous à la tragédie, le dénouement n'étant si heureux pour personne. Si cette pièce était un jeu, à la fin, aucun d'entre eux ne gagne. Tite et Bérénice sont séparés, Domitie et Domitien, eux, finissent mariés, mais sont désormais ennemis, ce dernier lui ayant empêché de devenir impératrice. La pièce est donc politique, intrigante, tandis que l'action est bien plus moderne que celle de Racine. Et malgré ce bref exposé, il demeure indéniable que la pièce de Racine demeure en réalité en tout point supérieure, dans son texte, dans ses thèmes, sa poésie et ses personnages. J'espère toutefois que cette chronique vous aura permis de vous intéresser à cette pièce trop méconnue qu'est celle de Corneille. Cette dernière devrait être reconnue à sa juste valeur, si toutefois elle n'était pas éclipsée par sa brillante grande sœur.